Bonjour, bah, bienvenue chez nous.
Je m'appelle
Merci.
Très bien, Jennifer.
Jennifer.
Et donc Clémence.
Et où sommes-nous?
Nous sommes à Troussure.
Troussure.
Petit village de 175 habitants.
Ah oui, petit village.
Ouais.
Belle église.
Ouais, et vous avez vu là, quand on arrive?
Ouais.
En surplomb, c'est beau.
Hein. Ouais, très beau. Ouais.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue. Vous écoutez Le goût du monde. Nous sommes dans le nord de la France, à Troussure, dans la nature et avant le confinement. Dans la micro-ferme d'Abdel et Jennifer Aiguiwi, Abdel est d'origine algérienne, il a reçu la culture, l'amour de la terre de sa famille. Un héritage qu'il transmet et partage.
Et qu'est-ce qu'on fait à Troussure alors?
À Troussure, on plante des légumes et des fruits. On cultive de façon bienveillante, j'aime dire. C'est-à-dire en dérangeant la terre le moins possible. Et en s'inspirant des mécanismes de la nature, c'est ça, on dérange le moins possible. Vous voyez, là, on fiche la paix aux orties, aux chardons quand ils ne nous dérangent pas. Il nous arrive de les enlever quand même, mais...
Donc, et on est dans la permaculture ou c'est pas la permaculture?
Si, c'est un croisement de plusieurs techniques, la permaculture, l'agroécologie aussi. Voilà, c'est vraiment, encore une fois, inspiré des techniques de la terre et puis des techniques d'antan, en fait. On fait tout à la main, ici, puisque, de toute façon, la taille de la parcelle ne permettrait pas de faire entrer des machines. Et puis, on n'aime pas le bruit. Donc, tout est fait à la main. Et on essaie de faire une micro-ferme, c'est-à-dire où tout se complète. Donc, on a une petite chèvre, on a des poules qui nous fournissent le fumier pour enrichir. Et tout ça se complète.
C'est un écosystème.
Oui, c'est ça.
Dans un endroit.
C'est ça. Et puis, d'essayer d'être le plus autonome possible au niveau alimentaire. En termes de viande, œufs, fruits et légumes, on mange que notre production. Après, il reste quelques petites choses à acheter. Donc, on essaie d'acheter le moins mauvais possible.
Il faudra me raconter comment vous en êtes arrivé à cette idée-là. Est-ce que ça ne vient pas comme
non,
ça?
Puis on part de loin. On habitait Pierrefitte-sur-Seine, je ne sais pas si vous vous situez.
Non.
À l'époque où on l'a quitté, c'est la ville la plus criminogène de France, pour situer un peu. C'est en Seine-Saint-Denis, sans vouloir alimenter
des préjugés.
Voilà. Mais en tout cas, il ne faisait pas très bon y vivre, ça c'est sûr. Donc on habitait en immeuble, voilà. Et puis à l'arrivée des enfants, je pense que souvent il y a des questionnements qui se mettent en place. Et mon mari vient d'une famille d'agriculteurs-éleveurs en Algérie. Donc la ville, c'est pas son truc. Moi, je viens de la campagne en France. J'avais toujours dit, je vivrai jamais à Paris. Puis les études et le travail faisant, j'ai quand même fait un détour par Paris. Et du coup...
Vous avez rencontré votre mari, du coup?
Oui, tout à fait.
Donc ça a eu cette utilité-là.
Ah, de toute façon, fallait passer par là. Enfin, on est là parce qu'on est passé par où on est passé, quoi. Et puis, encore une fois, avec l'arrivée des enfants, on se dit, ouais, non, c'est la vie n'est pas là. Donc, on veut s'éloigner, quitter Paris. Et puis, des questions budgétaires font qu'on s'éloigne de plus en plus. On agrandit les cercles dans nos recherches. Et puis, on tombe sur cette maison, sur le Bon Coin, et qui, du coup, est assortie d'une pâture où il y avait des moutons. Et pâture, elle est même pas comprise dans le prix de la vente. Elle est, c'était plutôt un poids pour l'ancien propriétaire.
D'accord, c'est ça. Donc c'était pour le coup vraiment une occasion. Quoi.
Ouais, parce que du coup on a acheté la maison et son terrain.
Bonjour.
Et puis, l'occasion pour mon mari de réaliser son rêve. Enfin, il espérait même pas pouvoir faire ça un jour, quoi. Il était mécanicien et. Donc du coup, pendant un an, il a continué à aller à Paris tous les jours. C'est une petite période de transition. Et puis après, petit à petit, il a commencé à cultiver, histoire de jauger un peu la terre. Il a vu que ça marchait pas mal. Et nous y voilà, 4 ans plus tard. Moi, je l'ai rejoint il y a 2 ans, en gros. Puis on est censé vivre à 4 sur cette parcelle. Donc c'est là qu'on dégage notre revenu. C'est une toute petite surface, une micro-ferme, c'est vraiment ça. Et on pense vraiment qu'on peut y arriver. Sinon, on ne le ferait pas. On n'est pas complètement...
Du coup, la viande ne fait pas tellement partie de votre alimentation ou
On en mange peu, et quand on en mange, c'est nos poules. en général. Sauf, enfin voilà, je sais pas, si un ami nous dit, j'ai un quart de mouton ou une part de bœuf ou voilà. Mais c'est plutôt nos poules et de toute façon, absolument pas de la viande à tous les repas, ouais. Beaucoup d'œufs par contre. Enfin, quand elles daignent en donner.
Je crois qu'il fait un peu chaud en ce moment.
Il fait chaud, elles les mangent parce que tellement c'est sec, il n'y a plus trop de verre. Ouais. Du coup, elles manquent de protéines. Ouais. Donc elles en prennent ou elles en trouvent, c'est-à-dire dans leurs propres œufs. Ça c'est dinosaure qui...
C'est qui dinosaure?
Ouais, les coqs ont une mission de veille. Du coup, dès qu'il y a un danger, ils grognent.
Attention,
comme ça.
Il est très effrayant. Il surveille.
Ah oui, dès qu'il y a un danger, un truc qui plane parce qu'on a des rapaces là au-dessus de la forêt. Ouais. Ils s'approchent un peu des fois ou... Enfin voilà, des humains qu'ils connaissent pas, un véhicule, voilà.
C'est rigolo parce que... Il y a une maison juste à côté. Avec, j'ai tout de suite repéré la cabane. Oui. Je me dis, ah, c'est chouette, il y a un toboggan et tout.
Oui.
Et il n'y a pas. Alors, c'est tout propre, tout nickel, oui. Tout bien tondu. Tout.
Oui, ça fait un peu le contraste avec nous.
Il y a la vie. La vie et l'ordre.
Oui, c'est un peu ça. Ouais. Oui, il y a des gens qui ont besoin de maîtriser un petit peu leur environnement. Bah nous, même si on voulait, de toute façon, on ne pourrait pas. On n'a pas assez de temps pour s'amuser à couper tout ça.
Ouais.
Du coup, et puis, de toute façon, c'est bon. Les orties, pour la santé, c'est une bombe à vitamines et tout ça. Je lisais même que ça nettoie le sol. Ça détoxifie les sols.
D'accord. Les orties,
ouais.
Ah, c'est pour ça qu'on fait du purin d'ortie.
Ouais. Alors, le purin, selon la dose, enfin le dosage, ça peut être soit un désherbant, ça peut absolument tout cramer. Ou bien être un enrichissant s'il est plus dilué. Mais ça peut être très fort. De toute façon, c'est pas parce que quelque chose est naturel qu'il est anodin. Enfin, on n'a qu'à voir les huiles essentielles. Ça peut être très fort, voire dangereux si c'est mal utilisé, quoi.
C'était un poison, la tomate, à l'origine, je crois, non? C'est une famille de poisons.
En tout cas, leurs feuilles le sont. Leurs feuilles sont toxiques, ouais. Et personne ne s'aventure à les manger.
Mais ça fait un bon purin qui sent meilleur que le purin d'ortie.
D'accord.
Et qui éloigne aussi les bestioles sur les plantations.
D'accord. Bon, il y a le purin de rhubarbe aussi qui est
bien.
Pareil, la rhubarbe, la feuille. Nous, on mange les tiges, mais la feuille est hyper toxique. Et le purin de rhubarbe, ouais, c'est bon pour les pucerons notamment. Et puis sinon, les larves de coccinelle, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce qu'elles se délectent des pucerons.
D'accord.
Et de leurs larves.
D'accord.
Mais comme il n'y a plus beaucoup de coccinelles...
Non, il n'y a plus beaucoup de coccinelles.
C'est ça.
Ouais, c'est ça.
Cette année, j'ai dû en voir, 10.
Et en fait, le lien, parce que moi, je suis venue pour le potager.
Ouais,
quel est
oui.
votre lien? Je vais vous laisser passer le pas de votre porte.
Je vais juste poser ça, en fait, là. Et puis, on va aller visiter directement.
Votre mari, il est là?
Alors, je ne pense pas qu'il soit rentré du champ, mais ouais, j'aimerais bien qu'il nous parle. Enfin, je trouve que c'est lui qui parle le mieux de ce qu'on fait. Les petites poules. Des fruitiers de ci, de là. Là, on fait courir de la vigne.
Ouais, c'est une tonnelle.
Exactement. C'est ça, c'est un peu l'esprit du truc. C'est qu'il faut que ce soit utile, pratique, bon, naturel, tout ça. Là, on a un mirabellier qui a eu zéro fruit cette année.
Ouais, ça y est.
Oh, c'est compliqué pour les fruitiers, là.
Il y a combien de poules, du coup?
Oh, une cinquantaine.
Ah oui, quand même.
Oui, mais elles sont réparties en trois bandes, trois groupes. C'est plus facile à gérer. On a des framboises ici, des petites pommes.
Et du coup, vous vendez également?
Bien sûr, on vend sur place ici à la ferme. On a
ah oui, j'ai vu, il y a le panneau. Ouais.
Voilà. Et puis, on a un marché, enfin deux, au même endroit, donc le vendredi et le dimanche, on est à Méru. Et puis, on développe de plus en plus des points de vente. C'est-à-dire que c'est ciblé, en général, à la demande des habitants ou des élus. C'est le cas au Ménil-Téribus, où vous étiez tout à l'heure. Il y avait une demande, et du coup, j'ai un point de vente là-bas le mardi soir. Et puis, là, on a commencé un point de vente dans une ferme. Je ne sais pas si vous...
On ne connaît pas du tout la région.
Il y a une ferme qui...
Tout droit?
On va passer par en bas.
À droite.
Là, c'est un peu en veille d'ortie. Il y a une ferme qui travaille principalement la viande de porc, qui fait des terrines, tout ça.
D'accord.
Et ils ont un joli petit magasin de producteurs. Et du coup, je m'installe là-bas le vendredi après-midi et samedi matin.
D'accord. Donc vous vous répartissez, l'un fait les marchés pendant que l'autre...
C'est ça. Ouais. On s'est un peu répartis comme ça, parce que le technicien, c'est quand même mon mari au départ. Ouais. Moi, je débarque dans cette histoire. Voilà aussi, vous voyez, cerisier. Là, il y a des petits pêchers, nectarines, mais c'est compliqué pour les...
Pour les fruitiers.
Ouais.
Il y a quelqu'un qui se recoiffe au bout du jardin.
Il y a quelqu'un qui...
qui se recoiffe.
Il y a du travail. Vous voyez, il y a un petit, une partie des poules là, dans ce petit enclos.
Ouais.
Une autre là, dans le verger où on était. Et le reste dans le jardin.
D'accord. Ça fait quelle surface à peu près?
Ici, il y a un demi-hectare.
Un demi-hectare, d'accord.
Pas de caméra.
Non, c'est pour ça. Je me disais, il se recoiffe, mais c'est pas la peine.
Non, heureusement. Heureusement, parce qu'au niveau
bonjour.
Des cheveux...
Bonjour, monsieur. Adèle. Merci de nous bonjour. Accueillir chez bonjour. Vous.
Merci, c'est gentil.
On a de la chance.
Merci beaucoup.
Bon, donc, voilà, un demi-hectare.
Ah oui, un demi-hectare, c'est vraiment petit pour du maraîchage. Normalement, même les micro-fermes, souvent, elles sont sur un hectare ou un peu plus. Mais ça suffit amplement. Nous, on n'arrive même pas à tout cultiver.
On sent qu'il y a du basilic dans le coin, non?
De la menthe.
La menthe.
Il y a plusieurs sortes de menthe.
Oui, il y a quatre sortes de menthe ici. Bah, venez, on va regarder.
On va regarder. Alors,
oui.
Nous, on vous suit. Hein.
Oh, bah.
Il paraît que c'est vous, en fait.
Ouais, c'est ça.
À l'origine, il y avait Abdel, c'est ça?
C'est ça. Moi, j'ai rejoint et j'apprends. Ouais, donc ça coûte pas. Hop.
Voilà, comme vous voyez ici, il y a quelques tomates, les fraises, mais bon, il y a la fin.
Et du coup, après, justement, question pratique, une fois que la fraise est terminée, vous en faites quoi? Ça pourrit sur pied, vous laissez?
Bon, on laisse jusqu'à l'année prochaine. On va essayer juste de l'arroser si elles en ont besoin un petit peu.
D'accord.
Désherbage, oui. On désherbe tout le temps. Les fraises, c'est cette année qu'on a démarré les fraises, je pense. De toute façon, on apprend au fur et à mesure. C'est pas, on n'a pas un exemple à suivre. Comme c'est petit, il fallait toujours changer, modifier, trouver des solutions simples.
C'est un modèle à inventer un peu, les
micro-fermes. Ouais, j'ai essayé de chercher quelques modèles, mais j'ai pas vraiment. C'est entre le jardin et le vrai maraîchage, voilà.
D'accord.
C'est pour ça, on voit qu'il y a.
Parce que Jennifer nous disait que vous aviez votre famille en Algérie.
Oui, oui.
Agriculteur en Algérie,
oui,
maraîcher.
Oui, bah oui, on fait le maraîchage. On fait beaucoup d'animaux aussi. On a des. Des vaches, des moutons, voilà.
Bon, donc l'enfant que vous étiez à regarder.
Voilà, j'ai grandi dans une petite ferme, genre 3 hectares comme ça. Et on cultive beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Aussi les animaux, beaucoup de lait, de fromage, tout ça, les choses qui concernent les animaux. On vend beaucoup des agneaux pour les fêtes, tout ça. Et j'ai appris comme ça, sans faire exprès, quelque part, sans être formé ou tout ça, on apprend au fur et à mesure des choses comme nos enfants maintenant sont en train de désherber avec nous.
On se disait qu'on fait pas attention, puis des fois, effectivement, on se dit, ah ouais, en peu de temps, en faisant, du coup, on apprend beaucoup, la façon de se déplacer notamment, enfin, en fait, on le mesure à quand on reçoit des visites d'amis ou de gens qui viennent filer des coups de main et tout, et qui sont pas du tout à l'aise. En même temps, c'est pas hyper pratique chez nous. Il y a des fossés, des trous, des bosses, enfin voilà. Et on se dit, bah tiens, j'ai appris à me mouvoir là-dedans. C'est ça, sans faire attention.
Ouais.
Et c'est ce que vivent les enfants, parce qu'ils sont pas, ils sont pas scolarisés. Ils sont en apprentissage informel, inconscient, autogéré. On appelle ça plein de sortes de noms. Et c'est ça, c'est vraiment apprendre en faisant, puis à un moment on se dit « Ah ouais, je sais faire tout ça quand même
!» Alors moi, il y a quelque chose qui m'intrigue, parce que il y a comme des bouquets de fleurs, mais ça doit pas être ça, parce que ça a un pied dans la terre. On dirait que c'est des bouquets...
Accrochés.
Ouais. Non, mais là, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est comme plante?
Là, qui part de sol vers la houle, comme ça.
Oui.
Ça, c'est des graines de salade. C'est les fleurs de salade quand ils sont encore... En fait, on
je suis désolée, il faut que j'aille voir.
Pardon?
J'ai jamais vu des fleurs de
allez-y,
salade.
On peut
y aller. Alors, il y a quelques orties quand j'en pense.
Fleurs de poireau.
Oui, c'est. Là, c'est fini presque les fleurs.
Mais d'accord.
Ça, c'est une fleur. Voilà, il est resté là. On voit une petite fleur jaune.
D'accord.
Au début, ça, c'est plein de fleurs jaunes. Et après, ça, les fleurs, elles tombent et il reste les graines là. On va en ouvrir une, on va trouver des graines de salade. Et,
ouais.
Et ça coûte vraiment très, très cher. Du coup, moi, j'ai fait quelques plantes moi-même.
Bien sûr.
Et voilà.
Et du coup, vous faites vos propres semis et vos graines.
Pas mal de choses que je les fais en moi-même. Les graines de salade, c'est simple. Les tomates, les poivrons, aubergines, tout, courgettes, les citrouilles. Les navets, quelques graines aussi, les oignons, tout, plein de choses que j'arrive à les faire. Et voilà, on découvre, on apprend plein de choses, hein, on n'est pas expert. Hein. On découvre les sortes, après on voit que ça change. Alors les salades, et après c'est pas exactement la même salade, c'est une autre sorte de salade. On voit qu'il y avait un croisement entre les deux salades. Voilà, et, ça, je suis sûr que ça donne pas exactement la même salade de l'année dernière. Mais je pense que...
Et du coup, vous les stockez les graines, vous les semez d'abord?
Oui, je les garde dans les sacs en papier, comme ça, ils sont en droit sec. Après, je sème quand j'ai besoin, voilà, quand j'ai besoin, je vois un endroit un peu frais, je mets quelques poignées, après, voilà, dès que ça sort, je prends petit à petit, je plante dans les endroits où j'ai besoin.
Tout au long de l'année.
Toute l'année. Ah, voilà. Sauf la période, il fait très très froid, ça pousse pas très très rapidement.
Ouais.
Ça met du temps à pousser.
Aubergine?
Ça c'est aubergine, oui, les fleurs.
Ah mais c'est trop beau. Non mais c'est dingue. Regarde l'aubergine. C'est hyper beau. Eh ben j'en ai un plan chez moi. Mais elle a grillé sur pied.
Regardez.
Eh ouais, oh, elle est belle.
Ouais.
Ça, c'est une variété de ronde ou c'est juste parce qu'elle n'a pas terminé sa croissance?
C'est les rondes.
Ouais. Ronde,
Elle est magnifique, c'est beau.
Vous voyez les feuilles, elles sont tombantes.
Ouais, c'est ça.
Autres.
Comme si elles manquaient d'eau.
Ouais. Ouais. Alors que ce n'est pas le cas.
Oui, du coup, en termes d'arrosage et tout ça, vous arrosez?
Alors, il faut, parce que c'est
ouais. On arrose avec.
Non, mais je pose la question parce qu'il y a aussi des.
Oui, il y a des gens qui arrosent.
Mais en même
pas.
Temps, vous n'auriez pas de serre.
Oui, peut-être qu'il y a des manières pour on n'arrose pas beaucoup, mais après pour quelqu'un qui pour lui-même il peut trouver des idées pour pas trop arroser.
Oui.
Mais pour produire et à vendre tout ça.
Mais par contre, on essaie de récupérer là. Enfin, on les voit plus, mais il y a des fossés. On récupère l'eau des serres déjà.
Ouais. Bah, on a une mare, un petit peu.
Et puis on a une mare voilà où il y a des canards et tout.
D'accord. Dans lequel vous puisez l'eau.
Pousse-toi.
Regarde l'aubergine magnifique. De l'ail.
Qui a grandi avec les tomates. C'est une tuerie, c'est du rose du Tarn. Et en plus, nous, on le récolte et on le vend jeune.
Mm-hmm.
Donc avec les tiges,
ouais.
Il y a encore du jus dedans. C'est un régal.
Ouais.
Sentez-moi ça. Ça avec des tomates. Ou n'importe quelle salade en réalité. Mm.
Sentez-moi ça.
Tout cohabite. C'est de l'ail?
Ouais.
Tout cohabite, là il y a une salade qui s'est invitée, on ne sait pas trop d'où elle sort. On a des épinards, chez nous les épinards sont devenus endémiques, c'est-à-dire c'est devenu une herbe sauvage. Donc il y en a partout qui poussent là.
Ça c'est épinard.
Ouais, c'est une variété ancienne qui est délicieuse, qui a beaucoup de succès parce que la carde étant fine, ça se mange en salade, en poêlée, enfin on cuisine tout.
Et ça c'est, il y a des carottes là.
Ouais. Avec ouais. D'autres choses comme
donc toujours. C'est une joyeuse pagaille en fait.
Exactement.
Hein, c'est chacun.
C'est comme ça.
Elles vont les unes avec les autres. Elles
oui.
Sont bien.
On enlève ce qui gêne vraiment. Bah, par exemple les carottes. Enfin là elles sont grandes, on les laisse. Mais jeune une carotte si vous désherbez pas, elle va jamais pousser.
D'accord. Elle a besoin de la lumière pour pouvoir.
Oui bah oui.
Le goût du monde. Clémence de la vie.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe.
Et les man, faut faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man. Monde animal, crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Pas de boulot, pas de diplôme, partout la même odeur de zone.
Plus rien n'agite tes neurones, pas même le shit que tu mets dans tes cônes.
Va voir ailleurs, rien ne te retient, va vite faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas, ici tu n'as rien, et sois le premier à chanter ce refrain.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de l'animal, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'une rivière,
écoute le couler de l'eau sur la terre.
Dis-toi qu'au bout, hey, il y a la mer,
et que ça, ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien, comme celui avant toi, comme celui qui vient. Que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de l'abîmal, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et compare-le à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le saignent?
Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde de tout son orgueil.
Sa maison est là, tu es sur le seuil.
L'hymne de nos campagnes de trio, vous écoutez Le Goût du Monde. Vous nous rejoignez? Nous sommes avec Abdel et Jennifer Reguioui, dans leur micro-ferme, le nez dans les poivrons et les tomates, à regarder la terre et ce couple qui sait si bien l'aimer.
C'est quoi ? Endives, mais sous forme de salade,
ouais,
à l'extérieur, ce qui est absolument délicieux, et qui en plus ne se fait pas bouffer par les limaces, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas l'amertume de l'endive qui est une racine finalement. Et du coup, si ça monte à graines, voilà, ça donne ça, c'est magnifique.
Ouais,
c'est bon. Elles ont séché, ça y est.
Votre lien avec ce potager partagé, quel est-il ?
Je peux commencer par une anecdote ?
Oui,
qui m'a beaucoup touchée. C'est une année où moi, je n'étais pas encore impliquée. J'étais encore avec mes histoires de bureau et d'ordinateur. Et un hiver, Abdel venait juste de sortir les légumes d'été, donc courgettes, tout ça. Et il a fait moins 7 le 30 avril, je m'en rappelle très bien. Et du coup, tout ce qui venait de sortir a cramé. Donc, il a pensé qu'il n'aurait rien cette année-là. Et du coup, je l'ai retrouvé un matin en train de poser un pansement à une courgette parce que la tige, du coup, elle gèle, elle devient translucide, elle se casse. Il est en train de faire un espèce de pansement avec un bout de tissu, je sais pas quoi. Et je me suis dit, ouais, c'est ça. C'est ça, son rapport avec ses légumes. C'est-à-dire qu'il a un profond respect pour eux, vraiment. Il leur donne l'importance qu'ils méritent, d'ailleurs. C'est pas juste des légumes destinés à être mangés. C'est des légumes, voilà. Et je pense que ça se retrouve dans le goût. Au marché, les gens, parce que les gens au marché, c'est pas des clients, c'est tous des amis à la fin. Et ils nous disent tous en rigolant, ils parlent à ses courgettes, ils dansent pour ses tomates et tout. Mais c'est vraiment vrai. Il a un rapport à ses cultures qui est spécial. Et ça ressort dans le goût, je le sais. Enfin, sans prétention aucune. Mais nos légumes, ils sont inégalables. Je suis navrée de le dire. Non, mais en vrai. Et c'est pas nous qui le disons, c'est les gens. Non, mais en vrai. Les gens, regardez, l'an dernier, il y a des clients qui ont fait le test. Ils ont acheté nos tomates juste avant de partir en vacances. Ils sont allés dans le sud, où il y a quand même un allié de taille, c'est le soleil. Et ils nous ont envoyé en disant, on a mangé les deux en même temps. Les vôtres sont meilleurs. Donc voilà. Je pense que c'est une façon de travailler, bien sûr, mais c'est aussi un goût, un amour de...
Ouais. Qui se ressent, en fait, dans la plante.
Ouais, je suis sûre.
Les jardiniers, il y en a pas mal, quand même, qui jardinent. Hein, on n'est rien du tout par rapport aux vrais jardiniers. Parce qu'il y en a qui, vraiment, ils ont le métier... c'est pas d'aujourd'hui. Hein, je pense que tout le monde peut arriver à ces résultats-là d'avoir des légumes qui sont bons, qui le goût il est intéressant et tout ça. Et il faut juste aimer faire ça. Je pense que c'est question d'aimer faire ça, c'est tout. Quand ils disent que demain il va faire beau, il va faire, je ne sais pas, 28 comme ça. Ouais, bien le mot 28 comme ça. moi, la première chose qui vient de ma tête, qu'est-ce que je profite de faire dans mon jardin ? Alors, il y en a qui préfèrent d'aller bronzer, l'autre, une petite sortie à côté de la plage. Ça passe par là, c'est question d'aimer faire ça. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est faisable. Il faut aimer faire ça, il faut apprendre chaque fois. Comme je dis, le jardinage, c'est quelque chose qu'on apprend tous les jours. Et voilà, c'est un autre domaine, c'est pas forcément l'agriculture classique. C'est plusieurs choses qu'on découvre. Il y a des années qu'on est content et des années moins. Mais je pense que depuis que je suis là, j'étais jamais déçu par rapport aux légumes. Si j'ai pas assez de tomates, j'ai d'autres choses. Si j'ai pas assez de pommes de terre, j'ai d'autres choses aussi.
C'est un philosophe, un peu.
Voilà, c'est toujours... Il y a une légume qui attrape le vide.
Je voulais dire justement, ce qui est très important à mon avis aussi, c'est l'humilité. C'est-à-dire que quand tu dis, il faut que j'arrive à trouver ou retrouver ma place dans cette chaîne, c'est-à-dire voir où je me situe dans le cycle de ce légume, qui peut très bien se débrouiller sans moi, finalement. On intervient un peu, la preuve, hein, voilà. Ça, on n'intervient pas et c'est pas souhaité même, mais c'est là. Et du coup, ouais, je pense que l'humilité, c'est important. L'humain a trop été dans une posture de maîtrise. Et
de discipline.
Ouais, et puis du coup, ça, je pense que ça se ressent aussi. Enfin, t'es un peu d'égal à égal avec tes légumes, quoi. T'es même au service de tes légumes, on pourrait dire.
Et alors, je reviens à ma question, parce que le potager, il faut en parler. Donc, il y a un potager, une terre, quelqu'un qui a une terre, qui la partage avec d'autres gens. Mmh. Votre rôle à vous par rapport à ce potager ? Est-ce que vous êtes un rôle de conseil ? Est-ce que vous apportez vos bras ? Est-ce que l'idée vous a séduite ?
Oui,
du potager partagé ?
Quelques conseils, toujours quelques idées. Je les promets de préparer plusieurs choses pour la fin d'année. Parce qu'il y a des choses que je ne suis pas encore sûr par rapport ici à le Picardie, parce que moi, je n'ai pas vécu beaucoup ici. Tout ce que je peux leur apporter, moi, c'est les idées, c'est la quantité, les légumes qu'il faut ou qu'on a besoin de... Ça ne pose pas de problème et ça, contrairement, c'est rapide à faire. Les légumes qu'il faut vraiment éviter de servir, c'est pas la région. Mmh. Voilà, c'est ces choses-là. Gagner beaucoup de temps, gagner beaucoup de tranquillité, le côté d'être heureux aussi. Est-ce qu'on peut faire ça et est-ce qu'on est heureux ou on n'est pas heureux? C'est juste pour produire et après on est fatigué, on n'a pas une vie claire, on n'a pas une vie stable. C'est aussi ça. Et je reviens toujours, le jardinier ou quelque part le cultivateur, normalement il devrait être sans stress, il vit une vie de tranquillité. C'est la seule chose qui peut poser des problèmes, c'est le stress. S'il a le stress de payer quelque chose à la fin du mois, ou chaque année il doit vraiment apporter, il faut aller déposer de l'argent à la banque, tout ça. Ça pose beaucoup de problèmes entre sa relation entre lui et la plante et la nature plutôt. Il commence à quitter sa place dans la nature à cause
au monde mercantile. Après, il faut être vraiment dans l'écoute en fait.
Voilà.
Il faut que rien ne brouille l'écoute.
Ça, le calme, c'est le principal. S'il n'y a pas de calme dans le jardin, c'est plus de jardin. Et c'est pour ça, moi, je n'utilise pas beaucoup de machines ici. À part, j'ai un motoculteur quand j'ai besoin pour les pommes de terre ou la majorité des choses que j'essaye de le faire à la main. Je désherbe à la main, je mets de la paille, je mets un petit peu de la bâche quand vraiment c'est compliqué. Et la tranquillité et le calme.
C'est tellement cohérent, tellement logique.
C'est artistique.
Ah oui, et c'est artistique, c'est très beau. Ah, c'est des vitelottes ?
C'est des patates. Oui.
C'est la première chose à dire aux gens, ne parlez pas et marchez.
Aujourd'hui, il n'y a pas de tondeuse, il n'y a pas de...
Ne parlez pas et marchez. Vous prenez des gens comme ça parfois, des Parisiens désespérés, besoin de silence.
Il y a des gens qui se proposent pour venir donner des coups de main. On a un couple notamment qui vient régulièrement. J'avais une amie qui venait aussi, puis elle a quitté la région. On a eu un woofer pendant un an et demi. Donc oui, il y a des gens qui trouvent que ça fait sens et qui viennent mettre leur pierre à l'édifice.
Ah, c'est beau. Alors, on surplombe votre jardin.
Moi, je le mets là. J'attends Richard Demeret qui se pose ici pour sa chanter.
Oui.
C'est ça.
Il
arrête de travailler jusqu'à qu'il finisse sa chanson.
Mais incroyable, Richard Demeret.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Sur RFI, vous nous rejoignez. Bienvenue, vous écoutez Le Goût du Monde.
Moi, je vous propose une chose. Nous allons nous asseoir.
Ouais.
Parce que le vent est plus en hauteur. Si on s'assoit là, ça va? En plus, on est face aux tomates. Voilà, s'asseoir. Je sais, c'est pas très jardinier de s'asseoir, mais bon. Jennifer, venez avec nous.
Voilà, c'est vraiment, c'est...
Moi, je me mets là parce que c'est doux.
Tu te rappelles quand ils ont le goûter ici?
Ouais.
On se met là,
et
le soir.
Et notre fils, il faisait la sieste.
Dans les plantes de tomates.
Il étalait un truc, il se mettait dans l'allée, il faisait sa sieste. Il était près de nous, au calme, il était bien.
Oh, tranquille.
Souvent, il y avait un chat ou deux qui se pelotonnait contre lui.
Voilà. Pépite, tu me griffes un peu? Je ne suis pas un tapis.
Elle a des bonnes griffes.
Griffes.
Ouais. Ouais. Et puis comme elle est enceinte, ça l'a repris. Hé, Caline. Bah, te revoilà, toi. T'étais déjà là tout à l'heure. Hop.
Tu sais quoi?
Je rigole. Je sais pas.
Et cette notion de partage, pour vous, elle est essentielle dans toute cette dynamique?
Bah, ouais, c'est une évidence. Enfin, pour moi, hors de ce type de projet, et donc du partage et de la solidarité... Ben, point de salut pour l'humanité. Enfin, on est quand même plutôt mal barré là, on voit bien. Le climat, c'est le bazar. Du coup, les êtres humains, c'est le bazar. Les animaux, les pauvres, sont tout perturbés. Les cultures, c'est pareil, elles sont toutes perdues. Il y a qu'en se remettant à notre place et en se serrant les coudes que ça ira. C'est une évidence. Et pour moi, on est conçu comme ça. C'est juste qu'on s'est un peu perdu en route, quoi. On a un peu perdu notre nature. En s'éloignant de la nature. Du coup, en y revenant, ça fait complètement sens. Moi, je ne me suis jamais sentie aussi humaine et utile que depuis que je fais ce que je fais.
Ça revient toujours à la place de l'être humain. Moi, quand j'observe la nature, je regarde toujours les animaux. Qu'est-ce qu'ils font dans leur vie? Je dis, est-ce que c'est vraiment comme nous? Toujours regarder le courrier, tout ça. Mais en fait, non. En fait, non, le matin, ils vont chercher à manger. Après, ils se reposent, ils font la sieste. Après, ils chantent si c'est des oiseaux. Après, voilà, c'est la période où ils s'accouplent. Après, ouais, ils font des bébés. Voilà, ils cherchent un endroit à calme, ils font leur nid. La nourriture, dormir, s'amuser un peu. Après, je dis, mais c'est ça, deux choses, manger et être heureux et dormir tranquillement. Il y a quoi d'autre chose, je ne sais pas. Mais... Après, aujourd'hui, on s'est mis dans un chemin, une route que ce n'est pas du tout ça. On fait tout sauf ça, on s'occupe de tout, sauf le manger et être heureux.
Oui, c'est vrai.
C'était le but. Soi-disant, on a fait tous ces moyens-là, le développement, tout ça, c'était le sens pour être heureux et manger tranquillement. La santé, on peut dire, la santé, être heureux. Et après, on se trouve qu'on tue notre santé et on n'est pas heureux. Et j'ai dit, voilà, c'est qu'il faut qu'on cherche ça vraiment, on va au bout de ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces êtres humains ils reviennent vers ça? Être heureux et manger, dormir tranquille, avoir une bonne santé. Et ben, il manque l'exemple aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est parmi les premières choses que... Je vise de réaliser, d'avoir un espace comme ça où on fait nos jardins et on vend un petit peu pour acheter d'autres choses qu'on n'arrive pas à l'avoir et payer nos crédits, nos choses-là, voilà, comme tout le monde. Et en même temps, des petites familles peuvent faire la même chose. Dans 2 ans, peut-être, on va vraiment publie ça correctement, on est sûr ce qu'on fait et tout ça, ce jour-là, les gens ils peuvent juste à suivre, c'est tout. Ce que j'ai eu au début, moi, la barrière, c'était ça, c'est qu'il n'y a pas un exemple à suivre, c'est tout. Qu'est-ce qu'il faut faire comme chose pour revenir à... Et j'ai vu que la vie, elle est plus simple que le plus simple pense qu'elle est simple. Ce que je dis, je ne sais pas ce que j'ai réussi de traduire ça, parce que c'est une expression.
Dis le sage, de à côté... De poivrons verts, quand même.
Ouais. Oui. Qui sont priés d'arriver bientôt, parce que quand même, on aimerait bien en manger.
Oui, il y a quelques-uns, je pense qu'on est...
Il y en a un juste derrière toi qui est...
Oui, c'est possible, oui. Ben voilà, c'est simplifie les choses.
Comment vous êtes regardé dans le village? Enfin, vous êtes à la campagne, donc dans un petit village. Donc on peut partir du principe que c'est peut-être plus simple ou ça l'est pas. Comment est-ce que vous êtes vus comme des uluberlus, comme non parce que s'il y a ce regard-là. Bon, après si vous allez peut-être me dire on s'en fiche complètement du regard et vous aurez bien raison.
Alors, c'est vrai, on attend de tout, mais après moi j'attendais d'autres choses parce que je croyais les gens de l'extérieur qui vivent dans les petits villages comme ça, ils ont gardé leur vie à l'ancienne, mais en fait non. Il n'y a que les mages de l'extérieur, mais en fait, tout le monde travaille en ville. Et ils rentrent le soir, ils sont fatigués, ils n'ont pas le temps de faire manger correctement. Du coup, ils mangent tout ce qui est congelé, tout ça, c'est rapide, tout ça. Et il y en a qui m'ont dit, voilà, tu vas te fatiguer quelques années, après tu vas arrêter forcément. Il y en a qui me trouvent un peu bizarre, il y en a qui ils sont contents, très très contents de ce qu'on fait. Ils nous disent c'est ça ce qu'il faut faire et tout ça, bon courage, tout ça. Voilà, c'est différent, c'est un petit peu comme la ville, c'est différent. En fait, il n'y a pas de différence entre les gens de la ville et les gens d'ici. On peut dire le système de la vie, il a touché tout le monde. Tout le monde, on a des enfants, ils vont à l'école, tout le monde, voilà, après cherche un travail plus proche... son domaine, voilà, et l'informatique ou n'importe quel domaine, il n'y a pas ici à côté des vaches et tout ça, il n'y a pas ça. Et du coup, voilà, c'est ça crie, on a un petit peu de vide, on voit qu'il y a un petit peu de vide entre nous. Avec les vieux, on peut dire les vieux qui, des générations en génération qui est en train de partir, c'est vrai, il apprécie beaucoup ce qu'on fait, mais les jeunes, tout ça, ils sont vraiment pris par le stress de la vie et tout ça, ils n'ont pas le temps. Et dès qu'ils préparent déjà, à partir du mois de septembre, ils commencent à préparer les vacances, penser aux vacances d'été. Et du coup, voilà, c'est la période d'été, il n'y a personne ici, tout le monde en vacances, tout le monde part quelque part, et après on reprend le boulot. Et ce qui est complètement contraire, je dis, là, tellement on s'est éloigné de la nature, on a trouvé un autre système qui est contre le système de la nature. L'être humain, normalement, la période d'hiver, ce soit calme, pas beaucoup de travail, beaucoup de repos, beaucoup de dormir. Et il mange le réserve qu'il a fait l'été, son confiture, les trucs, tout ce qu'il a gardé comme réserve. Il mange, il dort. Voilà, ça va être mignon avec les enfants le soir. On fait des trucs devant le feu et tout ça. Et maintenant, on travaille, on commence avec le froid, le travail. On commence avec le froid, du coup, on tue notre santé, on est malade, tout le monde en grippe, tout le monde court partout pour soigner, tout le monde se balade avec des médicaments dans les sacs. Et ça nous a un peu. J'ai dit, c'est pas ça le sens, c'est pas du tout ça. Et ça, c'est le fait qu'on n'observe pas la nature. On a essayé de que la nature nous observe. Elle nous observe jusqu'à un jour, on va avoir des problèmes comme aujourd'hui un peu. Mais il y a l'espoir, hein. Moi je dis il y a l'espoir de revenir. Et aujourd'hui j'observe les insectes et les oiseaux que j'ai dans ce carré-là. Le jardin, c'est énorme. Tellement il y en a trop, j'ai des corps. Qu'est-ce que je vais faire pour vous? Je vais pas vous tuer. Il faut vraiment, vous allez quelque part ailleurs, mais ailleurs ils ne trouvent pas la vie. Ils ne trouvent pas la vie parce qu'ici il y a un petit peu de tout, les arbres, les fruits, les petits trucs comme ça, ils trouvent les cachettes, tout ça. Et les insectes ici, je ne sais pas combien, je ne connais pas les noms, mais je les connais au de visage, mais je peux dire, il y a des milliers d'insectes, hein, les vers de terre, les sortes de trucs. Et c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a une possibilité de revenir dans peu de temps. Je ne suis pas pour les découvertes d'aujourd'hui, qu'on est trop tard, il faut abandonner, on ne peut jamais rattraper. Je pense qu'il faut juste arrêter de faire des bêtises et revenir sérieusement vers ça, et je suis sûr quelques années la nature va se remettre comme avant. On va voir des plantes qu'on n'a jamais vues avant, ou peut-être on l'a perdu plusieurs années, toutes ces choses-là, ils vont revenir. Et ça, en tous les cas, c'est mon espoir que tout le monde va faire quelque chose pour que ça revienne comme avant.
On peut être adopté.
Ah, bienvenue. Parce qu'on cherchait tout le temps le contact avec les gens, c'est un petit peu... Mais grâce à ce qu'on fait, il y a des gens qui viennent vers nous. Voilà, c'est...
Ouais, bah, récemment, il y a une petite jeune fille qui nous a contactés, elle voulait nous suivre sur une journée. Ouais. Et du coup, ils étaient contents. Et je me dis, ben, juste avec voilà, la joie ou le sens que ça peut procurer ce qu'on fait, rien que pour ça, déjà, ça vaut le coup. Donc en plus on s'en nourrit, en plus on en nourrit les autres.
Ah oui, les chats ça a commencé comme ça. Les chats aussi, il n'y avait pas de chat chez
nous. Ouais.
Il n'y avait pas de chat ici.
Non, il y avait une femelle qui est venue s'y installer chez les poules, elle a fait ses enfants. Et ça a commencé comme ça, avoir des chats. Et une histoire, après il les a fait dans l'arbre et tout ça, on a pris en photo. Il y avait une histoire, il y avait l'orage une fois, couru, je l'ai récupéré. C'est comme ça qu'on a commencé à faire une nouvelle vie.
En fait, les animaux, ils choisissent de s'installer ici. Là, on a une canne qui a fait sa portée de 13 canetons. Bah, malheureusement, ils ont un peu été décimés. On craint qu'il y ait un renard pas très loin.
Ah, bah, le renard aussi, il vient, c'est pour manger.
Oui.
Il ne trouve pas quoi manger ailleurs.
C'est clair.
Il y a beaucoup de stress pour
c'est
lui.
Clair.
Il cherche l'endroit calme.
Donc voilà, les chats se sont installés et puis ils ont fait leur portée. Les canards, les oiseaux.
Les aigles, les serpents.
On a des couleuvres à collier.
Ah oui, les couleuvres et tout, les petites vipères et tout.
Après, les petits machins là, comme on appelle
ça. Ah bah tiens,
aussi.
Les rapaces. Entendu. Voilà, vous entendez?
Ouais. On en a vu en voiture, en arrivant. C'est quoi d'ailleurs? C'est des petits faucons?
Alors, c'est soit des faucons cresserelles ou soit des buses. Et là, ils nous font un spectacle. Bah, vers cette heure-ci, à peu près tous les jours, ils planent au-dessus de la forêt en criant. Enfin, voilà, il y a des gens qui payent et qui vont loin pour voir des spectacles de rapaces. Nous, c'est là. Et puis, on a nos voisines les vaches. Mon fils, il avait adopté une vache l'an dernier. Jacqueline. C'est marrant, ils avaient un rapport, elle le reconnaissait. C'est-à-dire quand il s'approchait, elle venait, elle mettait son gros nez mouillé comme ça. Mmh. Elle le connaissait.
Vous avez combien d'enfants?
Deux. Et ben voilà, on essaie qu'ils fassent leur part. C'est pas toujours de bon gré, mais c'est pas grave. Mmh. D'abord, ils ont à faire leur part dans ce monde. Et puis au moins, moi je leur dis, au moins, on ne sait pas ce qui arrivera. Vous saurez vous nourrir. Vous saurez faire pousser des trucs... élever des poules et ramasser leurs œufs et même voilà abattre les poules et puis les nettoyer tout ça vous saurez faire ça on sait quand même pas enfin voilà
c'est un bon bagage pour la vie.
Ben carrément
tenter de déranger la terre le moins possible avec le confinement j'ai eu bien sûr envie de prendre des nouvelles d'Abdel et de Jennifer de connaître leurs sentiments de leur demander leur regard sur cette crise sanitaire mondiale.
Ça ne fait que confirmer la pertinence de ce qu'on fait. Ça, c'est le côté, je dirais, qui fait du bien, de savoir que ce que tu fais a vraiment du sens et a vraiment une utilité. En revanche, il y a forcément une pointe d'amertume qui est les conditions dans lesquelles on se rend compte que vraiment, c'est très utile d'être résilient à ce point. Parce que, bah, voilà, c'est des conditions très, très difficiles pour certains. On aurait préféré que les gens aient le temps de réaliser, de prendre conscience de l'utilité de ce type de vie. La résilience, c'est la propriété d'un corps à absorber un choc et à s'adapter, en quelque sorte. Appliquée aux humains, bah, la résilience, c'est d'arriver à s'adapter, à supporter les crises, les chocs. Et l'humain est très résilient. Dans les guerres ou dans les grosses périodes vraiment très difficiles de l'humanité, il est toujours sorti de très très bonnes choses. De magnifiques initiatives ont toujours émergé. Ça fait appel à notre solidarité, ça fait appel à notre humanité, l'entraide, l'empathie, le fait d'inventer des systèmes D, des choses pour continuer à fonctionner malgré l'arrêt de facto de choses qui ne sont pas entre nos mains, en fait, qu'on ne maîtrise pas. Et du coup, c'est le mot qui me restera en tout cas de ce qu'on vivait déjà avant cette crise sanitaire, c'est d'être adapté par avance. Donc à la limite, c'est même pas de la résilience parce qu'on l'avait déjà avant le choc, je dirais. J'espère que ça changera, ça fera bouger des lignes de fond chez beaucoup de gens. Je pense qu'il y aura des changements. et sans possible retour en arrière pour certains. Une fois qu'on a goûté à des produits dont on sait qu'ils passent du champ à l'assiette et qu'on se fait plaisir en les mangeant et qu'en plus on sait qu'on se fait du bien, enfin j'espère vraiment, non je suis quasiment sûre en fait, que certains ne pourront plus revenir à autre chose.
Dans votre ferme, c'est pas juste de la culture. Vous avez aussi un souci de philosophie, de pédagogie. Vous allez avoir plein de formations.
Je le souhaite parce qu'il se trouve que là aussi, sans le faire exprès, on avait décidé cette année de développer un peu plus le volet transmission. Il ne s'agit pas juste de fournir à manger aux gens. Pourquoi pas de leur donner envie de cultiver eux-mêmes, voire d'avoir une vie un peu comme la nôtre, d'en piocher au moins certains éléments. Oui, ça va nous donner, nous, encore plus envie. Et puis, oui, peut-être à des gens aussi d'apprendre plus à cultiver, de se renseigner. On a déjà des demandes comme ça de personnes, alors chacun à son degré. Certains qui veulent juste apprendre à planter des tomates, et puis d'autres qui vous disent « non, je veux changer de vie, donc j'ai besoin de tous les éléments ». Les éléments de la culture elle-même, mais aussi voilà, comment je m'organise dans ma vie personnelle pour faire correspondre tous ces éléments, l'élément professionnel, l'élément personnel. Ça aussi, par effet de ricochet, ça va se développer et c'est tant mieux, parce que la partie pédagogie, entre guillemets, représente au moins la moitié de notre motivation à faire ce qu'on fait. Sans savoir la forme que ça prendrait, avec tout ce qu'on fait subir à la planète, forcément, on crée des déséquilibres qui engendrent des choses comme ça. La façon de vivre, les déplacements, les regroupements de gens, voilà, ça donne des choses complètement incontrôlables. Donc sans savoir la forme que ça prendrait, nous, on était convaincus que le modèle actuel sur lequel vit le monde n'allait pas. Moi, en tout cas, j'ai trouvé une confirmation, mais dont j'avais pas besoin. J'étais déjà convaincue de ça. Cette façon de faire avec notre planète, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Il faut vraiment arrêter.
Est-ce qu'Abdel s'est rendu compte qu'il s'était passé quelque chose ?
Alors, oui, peut-être plus long pour lui, parce que vraiment, pour le coup, lui, il n'a vécu aucun changement. Il est toujours avec ses légumes dans son champ. Il le sait, parce qu'on en parle, forcément. Mais du coup, une fois en rigolant, je lui ai dit, je pense que t'es la personne sur la planète sur qui la crise a eu le moins d'impact, en fait. Parce qu'il ne se déplace déjà jamais, quasiment. Enfin, ouais, non, je crois vraiment que c'est une des personnes pour qui ça n'a absolument rien changé. Et d'ailleurs, j'ai une amie, dès les premiers jours du confinement, qui m'a envoyé un message en me disant, ah ben, pour Abdel, du coup, ça change rien, il sera toujours avec ses légumes.
Merci beaucoup Jennifer, Abdel, de votre accueil, de votre générosité, Anne-Sophie qui m'accompagnait ce jour-là et Michel sans qui je ne les aurais jamais rencontrés. La microferme à Troussure est aussi sur le web, laterreenheritage.fr. Vous trouverez sur la page de l'émission tous les détails et quelques photos. Et vous, cette terre, comment l'aimez-vous ? Partagez-vous les idées et les sentiments entendus aujourd'hui ? Et cette crise, que vous inspire-t-elle ? Racontez-nous sur les réseaux sociaux, WhatsApp et partagez si vous avez aimé. Cécile Bonissier a réalisé ce goût du monde. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous.